pour situer un enfant de l'époque, il faut situer avec l'éducation reçue. Et c'est un petit peu différent parce que nous, adultes, de maintenant, dans notre époque, je crois qu'on a une certaine retenue de parler de notre passé. On n'en parle pas, ce qui fait que les enfants ignorent souvent notre vie, quelle fut notre vie, quelle fut nos voies, enfin... Tandis qu'autrefois, les parents causaient, racontaient leur vie aux enfants, c'est quelque chose de passionnant. Moi, je vais... Voilà. Je vais vous situer, nous vivions à Lyon, mon père était ouvrier, et les soirées d'hiver, eh bien, c'était des soirées de veillée. Et alors, pour un ancien combattant de 14, que pouvait être la veillée? Eh bien, c'était raconter sa guerre. Voilà, c'était sa guerre. Et presque tous les soirs, on s'affilait contre la cuisinière avec mon frère, et les soirs d'hiver, je m'entends rester, l'été, on sortait, on se promenait. Mais les soirs d'hiver, eh bien, on s'asseyait près de la cuisinière, le dos, et puis... mon père repartait sur un épisode de la guerre de 1914. Et ça a été toute notre jeunesse, toute ma jeunesse avant, toute celle de mon frère. Et je peux vous dire que mes premiers souvenirs de mon métier 1933, eh bien, 32 même, oui, vers 32, je ne sais pas s'il l'a raconté avant, mais je ne devais pas l'écouter, mais avant 32, je me souviens, eh bien, ça me faisait 4 ans. Voilà, à 4 ans, j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait eu une guerre et qu'il y avait des Français et qu'il y avait des Allemands. Les Italiens et les Anglais étaient passés sous silence, d'ailleurs, par mon père, hein, pas plus les Américains. Il y avait les Français et il y avait les Allemands. Alors, il y avait des anecdotes rigolotes, une anecdote qui était moins drôle. Je me souviens que, je ne sais pas, plus tard, quand j'ai eu le 12, c'est-à-dire 8 ans, oh, mais je connaissais pratiquement toute la guerre de 14 avec tous les noms des communes, autant de l'Argonne que de la Marne, le nom des officiers, le nom de ces chefs de section, ainsi de suite, oui, je connaissais à peu près tout. Et il y avait une chose aussi que j'avais retenue, mais alors ça il faut bien aussi situer, c'est qu'avant-guerre, il y avait quand même cette formation, cette éducation, cette... je ne dis pas que c'est pas bon, je n'ai rien à dire, je constate cela, que l'Allemand était un ennemi. Voilà. Nous avions plus l'Alsace et la Lorraine, c'est d'accord, mais l'Allemand était un ennemi. Et c'était un ennemi moralement. Viscéralement, c'était un ennemi. Ce n'était pas des hommes comme nous. Alors, voilà, c'est dans cet esprit, si vous voulez, que j'ai été élevé. D'autant plus qu'il faut voir aussi que les programmes scolaires, même dans les écoles laïques, je fréquentais une école laïque, les programmes scolaires étaient aussi axés sur cette germanophobie, hein. On ne pouvait pas souffrir l'allemand. L'allemand était toujours, et autant dans les films qu'on pouvait voir ou dans les romans qu'on pouvait lire, c'était l'allemand, l'ennemi, la bête, la bête à abattre. Voilà. Après, c'est dans ce contexte, si vous voulez, que j'étais élevé. Alors, il est en fait certain que lorsque, en 1939, que 1939 est arrivé, eh bien, c'était une guerre, si vous voulez, qui allait libérer les esprits. On allait pouvoir abattre justement cette bête allemande. Vous savez, le côté nazi de la guerre 39-45, le côté nazi n'apparaissait pas, c'était l'Allemagne, l'Allemand. Bien sûr, j'avais, comme tous les Français, j'avais suivi les invasions de l'Autriche, l'Anschluss, et puis la Tchécoslovaquie, la Pologne, je connaissais un petit peu déjà, même à l'école, on nous en parlait. Et puis j'étais parti dans une colonie de vacances qui était grand malheur de mes parents, la grande honte de mes parents. J'étais parti dans une colonie de vacances qui était d'obédience croix de feu. Et là, ils m'ont dit qu'on avait dûment chapitré sur le côté patriotisme, nation, ainsi de suite. C'était quelque chose. Alors, je vous dis, la guerre 39-45 est arrivée. En fait, 39, d'abord, et puis ça a été l'école, quoi. J'étais à l'école et on ne parlait que de la guerre, on espérait que ça allait très vite, puis en définitive, ça traînait. À ce moment-là, j'étais en déclaration de guerre, j'étais en cours, en 39, oui, j'étais en cours moyen deuxième année. Et j'ai fait tout mon cours moyen deuxième année, non, cours supérieur deuxième année, excusez-moi. C'était l'année de mon certificat d'études. L'année scolaire de mon certificat d'études en 39, c'est ça, j'ai passé mon certificat d'études en juin 40. Alors vous voyez que, bon, au cours de l'année, on a déjà eu à l'école un tas. Donc je crois qu'on a dû avoir 10 ou 11 instituteurs qui se sont succédés par 8 jours, 15 jours, un mois et demi, ainsi de suite, vous voyez, mais je crois qu'on va être, on fait une bonne dizaine d'instituteurs et institutrices. Et à chaque fois, on voyait un instituteur qui arrivait et qui est parfait parce qu'il était mobilisé. On était donc continuellement dans la guerre. C'était donc cette guerre qui... Et on arrivait, si vous voulez, à voir, on a dit, mais comment se fait-il qu'on ne gagne pas, enfin les Allemands, bon. Et puis, juin 40 est arrivé, et là, il y a quelque chose de particulier qu'il faut que je vous dise. J'ai passé, je vous dis, mon certificat d'études en juin 40, et la veille de mon certificat d'études, nous avons subi le bombardement de Bordeaux. Et l'école des filles, qui était un tout petit peu plus haute que nous, avait reçu trois ou quatre bombes, je crois, des torpilles, et il y avait les classes qui étaient complètement HS. Et le lendemain, je passais mon certificat d'études, et quelques jours après, je crois que ça doit être un ou deux jours après, il y a eu l'armistice. C'était la désolation. À la maison, c'était la désolation, mon père pleurait, de honte, de rage et d'impuissance. Sa guerre, c'était, vous voyez, tout ce qu'il avait pensé, tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait subi, ça n'était pour arriver là, plier les genoux devant les Allemands. C'était une honte pour lui. Bon, alors, tout ça, c'est pour vous expliquer toujours le contexte. Après le reste, vous verrez que ça découle tout seul. Donc, il y a. Et moi, bien que je sois comme mon père, que j'y suis cette honte, que je la ressente, j'avais quand même la curiosité d'un gosse. Et la curiosité d'un gosse, c'était de voir comment qu'était foutu, vous m'excuserez le mot, mais comment qu'était foutu ces bêtes qu'étaient les Allemands. Et la première chose que j'ai fait dans la journée, quand j'ai su qu'ils arrivaient dans Bordeaux, eh bien, ça a été de descendre dans le centre-ville et d'aller voir ces hommes qui étaient ces bêtes qui nous avaient vaincus. Je suis descendu dans Bordeaux et je les ai vus arriver, ces hommes, tout de vert vêtus, avec leurs camions, la foule, leurs pagailles. Et je suis remonté. Plus perplexe qu'autre chose, je ne comprenais pas, ils avaient l'air d'hommes, ils n'avaient pas l'air de bêtes. Là-dessus, bien sûr, on a été chapitré à la maison, qu'il ne fallait pas essayer de les contrarier, qu'il fallait essayer d'avoir le moindre rapport possible avec eux. Enfin, vous voyez, tout ce qu'on pouvait dire, aux jeunes de l'époque. Et puis, ma foi, la vie a repris. La vie a repris, mais il y a quelque chose qui est apparu presque aussitôt. Je ne sais pas si ça a apparu partout. Il est assez vraisemblable que dans les pays ruraux ou dans les petites cités, ça n'a pas... Ça fait jour plus tard. Mais dans les grandes cités comme Bordeaux, pratiquement l'hiver qui a suivi 40, l'hiver 40, c'est 40-41, eh bien, ça a été tout de suite, systématiquement, les restrictions. Alors là, c'est quelque chose qui m'a marqué, quoi, assez ce fait qu'il y avait le... On partait, ma mère m'a fait inscrire au Secours populaire pour aller avoir un peu de légumes, elle ne trouvait plus rien, plus de légumes, plus de viande, que... Alors on était au tabaga, au machin, donc ça me marquait. Donc je faisais la relation de cause à effet, les Allemands étaient là, donc ça confirmait ce que mon père disait, et je commençais à prendre la... Si je l'avais eu, si cette haine des Allemands, c'était une haine dans le vide, parce que mon père m'avait raconté, je haïssais sans connaître, là je commençais à haïr pour des raisons qui m'étaient propres. Bon, enfin, on vivait dans cet esprit, et évidemment à l'école on ne faisait plus du tout, on ne parlait plus du tout de, ni d'Allemagne, ni rien du tout. Et alors, je me trouvais dans une classe, c'était donc, là je parle de 1941, je me trouvais dans une classe où c'était un cours complémentaire, et puisque j'ai passé le certificat, je me trouvais donc en cours complémentaire, et j'avais, 1941, j'avais 13 ans. Oui, j'avais 13 ans. Et c'était une classe mixte, parce que justement, comme l'école des filles avait été bombardée, c'était la première fois qu'on faisait de mixité, et il y avait des filles dans notre classe. Bon, alors, j'avais un camarade, je ne sais pas que je fréquentais beaucoup, j'ai un camarade, je fréquentais peu avant, mais par la force des choses, je ne sais pas, on était arrivé à ce... Il n'avait qu'à abandonner l'école après le certificat d'études, qui était plus âgé que moi, et puis, enfin, moi, je me trouvais là, j'ai commencé à fréquenter ce gars-là, qui s'appelait André Verdier. Il avait un an plus que moi, d'ailleurs. Là, on s'entendait, mais sans plus, oui, il n'y a rien de... pas une grande amitié quand même entre nous. Et puis voilà qu'un jour, ce gars était à côté de moi, et je sais pas, vous savez, c'est difficile de dire comment c'est arrivé. Voilà, il me dit donc, on pourrait peut-être... quitter la France libre, la France, et puis rejoindre la France libre. Hein. Tu es au courant, il y a un général de Gaulle qui a appelé tous les Français à Londres pour qu'on continue à se battre contre les Allemands. Je vous avouerai sincèrement que je n'avais jamais entendu parler d'un général de Gaulle. Et puis j'en avais du moins rien à foutre. À 13 ans, je pense autre chose. Enfin, de toute façon, on était là, on était occupés, je n'avais pas tellement la possibilité de faire autrement que de subir cette occupation en se disant hein, il viendra bien quelque chose un jour ou l'autre où on sera libéré. Et puis, enfin, il insistait, on pourrait essayer de passer, il faudrait voir, parce que la zone de démarcation ne passait pas tellement loin de Bordeaux, elle passait à une soixantaine de kilomètres Enfin, le plus près, je crois, qu'on avait prévu, est passé à Montpont sur l'Isle, c'est en Dordogne, mais ça fait environ une centaine de kilomètres. Et alors, il me dit, bon ben, il faudrait qu'on arrive, alors il m'avait tiré des plans, on passerait sur l'Isle, et puis on irait le côté en zone libre, et puis on pourrait rejoindre l'Angleterre, et puis on pourrait faire la guerre et tout ça. Je sais pas, petit à petit, cette idée m'enchantait, me faisait me dire pas dès que cette revanche de l'humiliation qu'il avait eue. C'est confus, hein, au départ, très confus. Et puis un jour, il fut décidé qu'on partirait. Alors on n'avait pas tellement fixé de date, mais on était déjà quand même assez organisé, parce qu'on faisait le point, qu'est-ce qu'il nous faut, quel matériel, quels vêtements, quelles chaussures. Alors ça, c'était le problème, les chaussures, parce que pour les chaussures, ni l'un ni l'autre, on avait des chaussures correctes pour faire de la marche, parce qu'il n'y a pas de problème. À l'époque, il n'était pas question d'utiliser ni un vélo, j'en avais pas, lui non plus, ni les motos encore moins, bon, les véhicules à l'argent. Et puis, il n'était pas question de prendre un autobus, ni quoi que ce soit, c'était trop cher, et puis on se serait fait repérer, vous voyez, c'était, on avait déjà l'instinct, on ne pouvait pas faire tout, parce qu'on pouvait se faire repérer. Et alors, on est arrivé à, je ne sais pas comment ça s'est fait, il y avait un vieux champ de manœuvre, enfin pas un vieux champ de manœuvre, il y avait un champ de manœuvre qui n'était pas loin de chez moi, et ben, avant la guerre, on allait souvent, avec mon père, voir les militaires qui faisaient de l'exercice dans ce champ de manœuvre. Et au milieu de ce champ de manœuvre, il y avait un vieux château qui était abandonné, qui appartenait au domaine, sans doute. Et les soldats venaient, c'était leur camp, quand ils étaient en manœuvre, c'était leur camp là-dedans. Et alors, j'y allais souvent même seul, des fois avec Verdier, on y allait, et on avait trouvé qu'il y avait eu... juste avant la débarque, si vous voulez, ils avaient laissé dans un coin d'immenses tas de godillots, mais usagés. Je ne sais pas si c'était réformé ou pas, ils étaient toujours en très mauvais état. Mais enfin, malgré tout, mieux que les pauvres petites chaussures de civils que nous avions, et qui étaient déjà en état lamentable, compte tenu qu'on ne pouvait plus en acheter en ville, enfin, en France. Et alors, un jour, on est parti sur ce champ de manœuvre et on a ramassé des godillots. C'était difficile pour trouver une paire, hein, parce qu'ils avaient été jetés en vrac comme ça. Enfin, au bout d'un moment, on a fini par se trouver une paire à peu près chacun, mais il me semble que je ne vais pas avoir les deux pieds de la même pointure. Et de toute façon, ils étaient trop grands. Mais enfin, vous savez... on avait quand même des chaussures, ils étaient durs, plutôt recroquevillés, mais en fait ça fait rien, on avait des chaussures. Et là, je crois que c'est à partir de là, quand on a des chaussures, on s'est décidé, je crois qu'on a fixé une date qui était dans les... ça devait être... là, nos préparatifs ont dû se faire au cours du mois de mars, et je crois qu'on avait dû fixer pour le début avril notre départ. Oui, ça doit être dans le début avril, mi-avril, quoi. Oui, voilà, c'était... Donc, ça devait être aux environs du 10 ou 12 avril. Oui, 10 ou 12, non. Mars, oh, je ne sais plus trop, enfin, c'est plus tard en avril, c'est la deuxième fois, ça. Enfin, là, c'était quand même au printemps, il faisait peut-être plus tard, même c'était peut-être en mai 41. Et alors... on avait ces vieux grelots là, et j'avais fait des préparatifs avec un sac de scout de mon frère. J'avais empilé des vêtements, tout ça, et j'ai mis ça derrière la moto de mon frère en bas, des vêtements, et puis surtout d'outillage. Alors en outillage, j'avais pris une hache, vous voyez l'utilité, j'ai pris un marteau. Alors on ne me demandait pas pourquoi j'ai pris un marteau, mais enfin, je pensais que ça pouvait toujours servir. Alors, j'avais mon sac et la hache, le marteau et mes godillots accrochés derrière. Et un matin, on est parti à l'école, comme d'habitude, mais dès que ma mère est rentrée travailler, j'ai été rejoindre Verdier chez lui. On s'est mis d'accord sur l'argent qu'il fallait, tout ça, parce que j'étais obligé de voler de l'argent à mes parents. Quoi. Alors, j'avais volé 100 francs. 100 centimes de maintenant, c'est-à-dire une pièce de 1 franc. Enfin, à l'époque, 100 francs, c'était quand même de l'argent. Et puis, lui, il avait, je me souviens pas, je crois qu'il avait dû avoir une quinzaine de francs. oui, une quinzaine de francs. Et puis voilà, et puis nous sommes partis, on a pris le tram quand même pour traverser la ville, parce qu'il fallait quand même traverser la ville. Et de l'autre côté de la ville, on est descendu et puis on a commencé à attaquer la route. Et alors, la route de Bordeaux en direction justement de la Dordogne, c'est l'avenue qui est une très grande avenue, très longue et très droite, et qui va jusqu'à une colline qu'on appelle les quatre pavillons. Et c'est là que pour la première fois j'ai lu l'appel de De Gaulle. C'était affiché. Il y avait une affiche qui avait été mise dans la nuit, sans doute, qui n'était pas arrachée. C'était sur une Vespasienne, bien ronde, sur le. Et il y avait cette affiche, et moi je passe à côté, c'est Verdier qui me dit, j'ai dit donc regarde, voilà l'appel du général De Gaulle. Alors j'ai lu, ça coïncidait, remarquez. Alors dès qu'on a quitté le tram, on avait gardé nos petites chaussures civiles, pimpantes, parce qu'on ne pouvait pas quand même pas se traîner en ville, dans le tram, avec les gros croquenots qu'on avait récupérés au champ de manœuvre. On a commencé à lacer ses chaussures, je crois que c'était lacet des ficelles d'ailleurs, il ne devait pas y avoir de lacet, et puis on a commencé à prendre la route, et on a marché. Voilà. Alors, à midi, on avait déjà fait un bon bout de chemin jusqu'à un petit hameau, je ne sais pas si on peut dire sur la carte, qui s'appelait La Poste. Et on était bien gonflés, vous voyez. Voilà, on s'est arrêté, on a mangé près d'un petit ruisseau, là on a même bu le ruisseau parce que de l'eau il n'y avait pas. Et puis on est reparti aussitôt après, on a continué à marcher. Non, il est évident que ça commençait à se faire lourd. On avait des ampoules, les pieds nous faisaient mal parce que ces chaussures, elles étaient raides, mon Dieu, qu'elles étaient raides. Et puis on a quand même marché comme ça tout l'après-midi. Et le soir, nous avons atteint les bords de la Dordogne. Un village qui s'appelle Arveyra. Et là, on était un petit chemin sur le côté, on avait pour éviter un petit peu la ville, on ne voulait pas trop se faire repérer dans la ville. On était sur un petit chemin. Et là, il y a Verdier qui me dit, dis donc, il y en a marre de marcher, hein, il faudrait qu'on trouve un autre moyen de locomotion. Alors on dit, oui, on pourrait voir ça. Et il me dit, si on pouvait trouver une barque, on remonterait le courant et on irait jusqu'à l'Isle, puisque l'Isle est un affluent de la Dordogne, du moins je crois, je crois, oui. Enfin, je peux vous certifier. Hein. Enfin, on remonterait au moins jusqu'à plus haut, et puis ensuite on serait pas loin de Montbon. Si c'est pas un affluent, ils sont très proches l'un de l'autre. Ces deux rivières sont très proches l'une de l'autre. De toute façon, elles se rejoignent dans les sillons de la Gironde. Et je ne suis pas très fort en géographie, hein, surtout la géographie des rivières. Enfin, je savais qu'en remontant la Dordogne, on approchait de Coutras, de Limoges, de Montbon, ainsi de suite. Alors, on a suivi ce petit chemin, puis la nuit est arrivée, et j'en avais ma claque. J'avais vraiment ma claque, et puis, j'étais plus aussi chaud que le matin. Et enfin, je ne voulais pas le montrer, ni le dire. Et alors, enfin, on a fini par trouver une barque qui était accrochée avec une chaîne, là, sur le bord de la Dordogne. C'est ridicule parce que, bon, enfin, j'en parlais plus loin. Et, s'est accrochée, elle est accrochée avec une chaîne, et puis un cadenas solide. Alors, on a dit, bon, on a des outils, et on va essayer de faire sauter la chaîne. Alors, je vous signale, Verdier avait une sorte des plaies à tonne sur les mains. Il appelait ça des engelures, en définitive, je suis plus tard parce que j'en ai eu moi aussi, c'était la malnutrition ou le manque de matière grasse. Je crois qu'il faisait des espèces de plaies à tonne. c'était pas joli, ça, il y avait toujours du liquide qui coulait dessus. Et alors, en manœuvrant la hache, parce qu'on pensait qu'on pourrait couper la chaîne avec la hache, vous voyez, on était doué, il s'est mis les mains dans les épines et sur ses plaies, les ronces se sont enfoncées, il s'est mis à hurler, à pleurnicher, à machin. Et je crois qu'effectivement, il devait souffrir énormément. Et alors, de là, il a commencé à dire, oh, si on rentrait. Et je vous avouerai que je n'attendais que ça. Qu'ils me disent, et si on rentrait. Alors je dis, t'as raison, c'est foutu, on va rentrer. Voilà. On était, disons, ça, on était à 30 km de Bordeaux. Et on n'avait passé qu'une journée, et c'était la nuit. D'abord, d'autre part, c'était une chose là, qu'on n'avait peut-être pas prévu, on avait prévu un tas de choses, sauf de passer les nuits. Et alors, quand on passe une nuit, qu'on a 13 ans, qu'on quitte pour la première fois ses parents, lui, il avait 14, d'accord, mais enfin, peu importe, et qu'on quitte la première fois ses parents, eh bien, une nuit, en pleine nature, quand on sait qu'on est en faute, eh bien, c'est quelque chose d'atroce à vivre. Surtout ça, et surtout quand on ne sait pas où coucher. Alors, il y avait même solution, on s'était couché dehors. Il n'était pas question d'aller chez quelqu'un demander l'hébergement. Bon, il fallait donc coucher dehors. Et là, c'était très déprimant, hein, vraiment déprimant. Et alors, on a rejoint la route nationale, et puis, ma foi, ben, on a fait demi-tour. On a commencé à reprendre le même chemin de nuit qu'on avait fait de jour, à l'envers. Seulement, il y avait quelque chose de cassé, si vous voulez, entre nous. C'était muet, mais on le ressentait. C'est-à-dire que moi, je lui en voulais d'avoir proposé l'abandon, et lui, il m'en voulait de l'avoir accepté. Vous voyez ? Donc à partir de là, on avait une certaine rancune l'un vers l'autre, et le retour, nous l'avons fait pratiquement sans nous causer. On se couchait sur des tas de cailloux, de gravier, quoi qu'il y avait sur le bord des routes, pour vous donner les routes, et on se couchait là, de temps en temps on dormait jusqu'à ce que le froid nous réveille, et puis on repartait, ainsi de suite. Et enfin, à l'aube, nous sommes arrivés quand même aux premières lumières de Bordeaux. On a pris le tram et on est rentré. Chacun chez soi, bien sûr. Et quand nous sommes arrivés, enfin chez moi, il faisait déjà grand jour. Et la première chose à faire, c'est que je me suis couché. Et mes parents étaient partis travailler. Et c'est à midi que ma mère m'a trouvé dormant à point fermé. Bon, inutile de vous dire la scène. Et enfin, comme elle avait prévenu le commissariat, il y a un inspecteur en civil qui est venu. Oui, je disais donc qu'un inspecteur en civil était venu me demander où j'étais parti, où nous étions partis. Ce qui est évident que Madame Verdier avait tout de suite été à l'école, ma mère également. Elle s'était donc connue dans des circonstances, disons pour elle, dramatiques. Donc cet inspecteur dit, où est-ce que vous êtes parti? Alors, on s'était quand même donné le mot avec Maurice Verdier. On s'était donné le mot en disant, il n'est pas question de dire que nous voulons partir en zone libre. On dira qu'on est parti pour travailler dans une ferme, dans des endroits où quand même la nourriture était plus abondante que dans la grande ville comme Bordeaux. L'inspecteur n'a pas tellement insisté, savoir chez qui, on a dit qu'on était parti un petit peu au nez au vent. Voilà. L'important pour l'inspecteur, c'est que nous étions rentrés. La suite, ma foi, la suite immédiate, elle n'a pas une très très grande importance. Si je retraçais cette première partie, c'est un peu pour faire connaissance avec Maurice Verdier, qui arrive à réapparaître plus tard. Donc la suite, nous sommes rentrés à l'école, et puis la fin de l'année scolaire est arrivée, et sans heurte, c'était fini, je retournais plus à l'école. Nous avions fini. Enfin, en ce qui me concerne, j'avais fini. Je ne sais pas si Maurice Verdier a poursuivi une année supplémentaire. On s'est perdu de vue complètement. Et puis, j'ai fait plusieurs places pour travailler, évidemment. Je n'avais pas mes 14 ans encore. Hein. J'en avais que 13 ans et demi. Et j'ai fait plusieurs places comme apprenti. À vrai dire, je ne sais pas d'abord si. Je crois qu'à cet âge-là, rien ne m'intéresse. J'ai fait une place de cordonnier quelques jours. J'ai fait une place d'apprenti quincailler quelques jours. Une place d'apprenti boulanger quelques jours. Ensuite, je suis rentré dans une scierie pour aller chercher des billes de bois avec des camions. On partait, le chauffeur et moi. Enfin, il y a un tas de petits boulots, mais qui ne m'intéressaient pas. Et puis alors, j'avais un voisin qui était plus âgé que moi, qui était parisien. C'était un parisien, sa mère était divorcée, c'était un gars très très bien. Qui avait déjà, si vous voulez, une autre culture sociale que la mienne. Et j'étais un petit peu en admiration, tout le petit quartier dans lequel j'habitais, d'envers ce gars. Mais ce qui n'empêche que s'il avait une culture un peu supérieure à la nôtre, et il était quand même aussi dans la mouise que tous les habitants du quartier, du fait que sa mère était divorcée et que la guerre était là, il était certain qu'il fallait qu'il travaille comme tout le monde. Or, comme il avait, et je crois qu'il était, coiffeur, mais ça ne l'intéressait pas. Enfin, il avait fait des études de coiffure. Et il a fallu qu'il se mette comme tout le monde à travailler et travailler n'importe quoi, c'est-à-dire que comme à l'époque il n'y avait pas tellement de main d'œuvre étrangère, c'était la main d'œuvre française qui faisait tous les menus boulots que maintenant font les Algériens, les Marocains ou les Espagnols, eh bien c'était surtout le terrassement, et les Allemands employaient énormément de gens pour faire du terrassement, particulièrement au camp d'aviation qui n'était pas tellement distant de chez nous, qui était distant à une dizaine de kilomètres. Ça paraissait énorme à l'époque, maintenant, évidemment, 10 km, qu'est-ce que ça, c'est une rigolade. Parce qu'ils aménageaient le camp d'aviation pour tous leurs bombardiers, ils faisaient des pistes nouvelles, des bretelles, enfin, ainsi de suite, mais sans engin mécanique, comme maintenant, c'était des multitudes de gens avec des pelles et des pioches, voilà. Donc Gilbert Sébastien, c'était son nom, est rentré au camp d'aviation, on se fréquentait, je le connaissais, on se voyait le soir, on sortait quelquefois, et pour ma part, moi je vous dis, j'ai travaillé, et puis après avoir quitté la Syrie, là, où je ne me plaisais pas, j'avais fini par rentrer à l'usine Peugeot de Sochaux, c'était replié sur Mérignac, et ils avaient occupé les bâtiments d'une ancienne poudrerie Rugirie, là, qui était juste derrière chez moi. Et toute l'usine Peugeot s'était repliée là, mais ce n'était pas l'usine Peugeot. Le vélo, c'était l'usine en définitive, c'était l'armée allemande qui l'occupait et qui travaillait dans. L'usine Peugeot, si vous voulez, travaillait pour les Allemands. Peut-être des pièces détachées pour les voitures, pour enfin, quelque chose. Il n'y avait absolument rien. C'était surtout pour les troupes d'occupation. Et alors, ils avaient fait paraître une annonce, je ne me souviens pas par qui j'étais rentré. J'avais été accepté comme coursier. Alors, si vous voulez, mon travail, il consistait à embaucher le matin bien avant 8 heures, de partir en vélo jusqu'à la grande poste au centre de Bordeaux, ce qui faisait environ une quinzaine de kilomètres, de prendre le courrier et de remonter à l'usine à rapporter tout le courrier. Ensuite, dans la journée, je me tenais au poste de garde, une conciergerie, si vous voulez, où il y avait un concierge en uniforme, et alors on l'aidait dans son boulot à piloter les clients, visiteurs, enfin... vous voyez, juste à côté, contigu, il y avait un poste de l'armée allemande. Bon, il leur construit quand on se fréquentait pas. On se disait quand même bonjour, c'est certain. Quand j'ai travaillé là, et j'étais pas mal. Ça me plaisait, d'autant plus que j'arrivais à faire. Parce que le soir, il fallait rapporter le courrier à la poste à Bordeaux. Et c'était après les heures de travail. C'est-à-dire quand personne était parti, il y avait le courrier à apporter, c'était donc un aller-retour. Je pointais qu'à la journée, je faisais des journées qui étaient très longues. Et c'était pas mal payé. Et mon frère, lui, travaillait à la poudrerie de Saint-Médard. Mon père aussi, d'ailleurs. Et alors, durant cette époque, mon frère avait été pris à la sortie de la poudrerie avec un bidon d'alcool, parce que vous savez que dans les poudreries, à l'époque, je ne sais même pas maintenant, les poudres étaient lavées, les poudres d'armes, les poudres de guerre, quoi, étaient lavées, nettoyées avec de l'alcool, mais c'était de l'alcool, pas de l'alcool synthétique, c'était de l'eau de vie à 90 degrés, et toutes les productions, toute la distillerie, tout était distillé pour faire de l'eau de vie, enfin pour faire de l'alcool, pas d'alcool synthétique, donc cet alcool était consommable. Et alors mon frère avait trouvé une coupure. De temps à autre, il sortait un bidon de 5 litres d'alcool et on pouvait l'échanger contre des tickets de pain. Oui, c'était le troc de l'époque. Mais un jour, il s'est fait prendre. Et évidemment, pour vol, au détriment de l'armée allemande, il a été. C'était un tribunal sommaire qui l'avait condamné à, je crois que c'est 2 mois de prison, au Fort du Var à Bordeaux. Quartier allemand, bien sûr, c'était le quartier, ce qu'on appelait le quartier politique. Il y avait les droits communs d'un côté, tous ceux qui avaient commis des larcins, des délits, si vous voulez, civils. Mais du moment qu'il y avait, c'était à l'armée allemande, ils étaient condamnés dans ce qu'on appelait le quartier allemand. Et alors, ça aurait pu s'arrêter là. Seulement, mon frère était plus âgé de 5 ans plus que moi. Et il a donc, si on peut dire, bénéficié d'une faveur spéciale. Le STO n'était pas encore établi, je ne crois pas. Le service de travail obligatoire en Allemagne, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de déportation, en disant, comme le service militaire, vous voyez, tous les... Parce que le STO, c'était ça. Tous les jeunes de 20 ans, partaient en Allemagne pour travailler en Allemagne comme travailleurs libres, bien sûr, rémunérés, mais partaient travailler en Allemagne. Ça n'était pas encore institué. Je crois que ça a dû être en fin 42, que ça a dû être institué, cette machine-là. Or, courant 42, il était donc au Fort du Var et... condamné politique, condamné si vous voulez par les Allemands, il a été déporté, c'est-à-dire qu'il n'est pas parti par le STO, mais en déportation pour travailler, mais à ce moment-là, sans rémunération. Vous voyez, c'était les premières déportations qu'il y avait politiques. Il y a qui ne partait pas. C'était pas un camp d'extermination où il est parti, vous voyez, il partait à la Haïtiche et il devait travailler, je crois, dans une usine d'armement. Bon, donc il est parti à ce moment-là. On se voyait très peu parce que déjà il vivait à l'extérieur. En fait, ça, c'est pour vous situer une époque. Et puis, Gilbert Sébastien, mon voisin, je fréquentais aussi ses camarades. Il me dit, oh, tu restes chez Peugeot, c'est minable. Mais effectivement, par rapport au salaire que Gilbert touchait et celui que j'avais chez Peugeot, j'avais un salaire dérisoire, donc je fais des heures très très longues. Donc, il m'a dit, tu devrais venir travailler au camp d'aviation, il y a du boulot, ainsi de suite. Et alors, un matin, je suis parti au camp d'aviation, au lieu d'aller chez Peugeot, et puis j'ai cherché à me faire embaucher. Donc ça a été très vite fait d'ailleurs, il suffisait de traîner un petit peu devant la barrière du poste de police allemand, il y avait toujours un gars qui était là, qui disait, tu veux travailler, bon, ben, viens, je fais du boulot, et alors, on vous amenait, c'était tout des petites baraques en bois, où il y avait des Allemands qui étaient à l'intérieur, mais pas des Allemands en tenue, c'était toutes des entreprises allemandes qui s'étaient installées et qui recrutaient du personnel sur place pour travailler sur le camp d'aviation. Effectivement, j'ai été embauché, ça s'appelait la Strabag, STRABAG. Vous me demandez pas ce que ça signifiait, je l'ai su à l'époque, mais je m'en souviens plus du tout. Et alors, aussitôt après, j'ai été embauché et je me suis trouvé sur le milieu du terrain d'aviation avec une équipe, on devait être 20-25, des pelles, des pioches, et puis un chef d'équipe allemand qui nous faisait travailler et qui nous surveillait. Je vais vous raconter une histoire cocasse. Ce chef allemand, il s'appelait Dur, D-U-2-R. D-U-3-2-R. Mais il ne parlait pas un mot de français. La seule chose qu'il savait dire en hurlant, c'était plani. Plani, ça signifiait aplanir. Donc il fallait toujours aplanir. Et toute la journée, il hurlait plani, plani, plani. Dans l'équipe, c'est peut-être chez Peugeot, je ne me souviens plus avec les connaissances de mon père, que j'avais, je baragouinais quelques mots d'allemand. Mais là, vous savez, les mots que je baragouinais d'allemand, c'était plutôt moi qui parlais, mais je ne comprenais rien du tout de ce qu'il pouvait dire. D'abord, d'une part, parce qu'il parlait vite, et puis ça ne correspondait pas à ce que moi, je pouvais comprendre. Je parlais en cherchant mes mots, tandis qu'ils parlaient évidemment leur langue, et moi, il fallait que je cherche au fur et à mesure, donc je ne comprenais rien. Mais du fait que je parlais quelques mots, ce chef d'équipe Dur était persuadé que je pouvais comprendre, d'autant plus que je donnais l'impression de comprendre. Alors, chaque fois qu'il avait des ordres à donner, il m'appelait, il hurlait au coin de mes oreilles, des trucs que je ne comprenais rien, mais c'était surtout par les gestes qu'il accompagnait que j'arrivais à saisir un petit peu. Et pour l'équipe, je retransmettais ce que j'avais cru comprendre. C'était, en principe, toujours assez valable. Je vous dis ce que j'avais cru comprendre, mais je n'avais pas en définitive, à part un mot ou deux que j'arrivais à piquer au vol, le reste était surtout dans les gestes ou les... Bon. Alors, vous voyez à peu près la situation. Alors, je n'étais pas privilégié, non, mais enfin, je n'étais pas trop mal vu.